France Musique.
Merci Philippe Cassard. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle note du traducteur.
1, 2, 3. Pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le quatrième et dernier cri du patchwork consacré aux sciences. Et pour terminer notre parcours entre mathématiques, physique et biologie, nous recevons aujourd'hui le compositeur et musicologue Frédéric Maintenant, qui fait voyager sa musique, qu'elle soit écrite ou improvisée, entre modèles physiques et mathématiques, en regard des œuvres de ses contemporains. Et comme chaque samedi, un zoom sur une œuvre de la fin du XXe siècle et un son décortiqué minutieusement. Le cri du patchwork, thème numéro 5, épisode numéro 4, séquence numéro 1.
Eh, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. L'effet Doppler, un phénomène naturel que l'on peut observer un peu tous les jours. Lorsqu'un son en mouvement, venant du lointain, s'approche de nous pour nous dépasser, on a cette sensation que sa hauteur baisse. Et c'est une réalité. La hauteur baisse en effet. Encore faut-il que l'écoutant soit fixe. Que ce soit dans le cas d'une sirène de police, d'un klaxon, d'un galop de cheval ou du moteur d'une voiture qui passe, même synthétisé par le groupe Kraftwerk. L'effet Doppler doit son nom au physicien autrichien Christian Doppler. En 1842, Doppler écrit un ouvrage sur les ondes lumineuses et ses décalages de fréquence en fonction du mouvement de l'émetteur. Il a avoué après avoir fait l'étude au préalable sur des sons. Et il est facilement concevable que les compositeurs, en particulier de musique électroacoustique, se soient pris au jeu de reconstituer cet effet Doppler. Encore faut-il créer des sons en mouvement pour un auditoire fixe. C'est ce que fait Michel Rodolfi dans « Le rôdeur », où l'on entend transposer à une voix mouvante cette trajectoire si particulière du Doppler. Dans une courbe de nuances, partant du plus piano pour atteindre le plus fort et repartir aussi sec, il y a à notre emplacement d'écoutant un point de décrochage de la hauteur et de la nuance, violent et soudain. Les théories de Doppler ont été corroborées par le chercheur néerlandais Buys Ballot en 1845, avec une expérience digne des happenings du groupe Fluxus, 100 ans après. Il plaça 15 trompettistes jouant une note unique dans un train reliant Utrecht à Amsterdam. Et parce qu'il avait placé des trompettistes jouant la même note au sol, c'est-à-dire fixe, Buys Ballot a pu ainsi déterminer la vitesse du train par le décalage de hauteur du son joué dans le train par rapport au son joué au sol. Délirant. Et peut-être que ça aurait pu donner cela. Écoutez la trompette à la toute fin du premier mouvement de la deuxième symphonie de Gustav Mahler. On ne sait pas si Mahler a voulu transcrire l'effet Doppler. Mais avouez qu'on a l'impression d'entendre ses trompettes sur ce train, passant à vive allure. Faire de la musique avec l'effet Doppler peut aussi se faire sans mouvement de l'émetteur. Il suffit de faire baisser la hauteur de manière volontaire, mais toujours avec ce léger glissando, comme dans cette intro du saxophoniste Steve Lehman, tout en glissement microtonal. Pour arriver à créer ce glissement, on peut utiliser de faux doigtés sur les instruments avant, permettant de jouer la même note mais baisser ou monter d'un quart ou d'un huitième de ton. Cette technique dite du bisbigliando, énormément utilisée par les musiques improvisées, s'entend bien dans ce morceau, simplement appelé Doppler, du clarinettiste Michel Mandel et du saxophoniste Yves Gerbelot. Dans le dub, musique bourrée d'effets en tout genre, on raffole des glissements et échos divers. Le groupe The Robotics, compère de Mad Professor, fait ainsi glisser en faux Doppler les guitares et nappes habillant leur dub sursaturé. L'effet Doppler est aussi observable à plus petite échelle, dans le vol d'un insecte. Encore faut-il y prêter attention. Eh bien, on pourrait l'amplifier et le projeter sur quatre haut-parleurs encadrant un auditoire. Et ça donnerait à peu près la conclusion de Turenas, œuvre de John Schaunig de 1972. Turenas est l'anagramme de nature. Et Schaunig tente de synthétiser par ordinateur les phénomènes acoustiques naturels, dont l'effet Doppler. On peut aussi faire bouger l'instrument. Comme quantité de saxophonistes improvisateurs actuels, Peter Van Ripper, en 1979, joue des sons longs en bougeant de gauche à droite de plus en plus rapidement, créant une illusion auditive où le son fluctue terriblement, englobant notre perception. Et justement, ce n'est pas une illusion. Cette fluctuation est bien réelle. Il suffit de mettre en mouvement les sons. Comme le fait Thierry Blondeau, qui, à plusieurs reprises, fait référence au Doppler dans plusieurs de ses œuvres. Étude de Doppler, ou pêle-mêle. Ou encore dans Non-lieu numéro 1, où la guitariste quitte la scène en continuant à faire résonner sa guitare, alors en mouvement, en balancement. On a presque l'effet d'une cloche d'église. Finalement, l'effet Doppler, c'est juste une manière de nommer ce que chacun observe tous les jours.
Vous voyez qu'on y arrive. Hein, c'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Frédéric, maintenant, bonjour.
Bonjour.
Alors, bienvenue dans le cri du patchwork. Vous êtes compositeur, musicologue, improvisateur et un peu mathématicien.
Oui, un peu mathématicien. C'est-à-dire, j'ai quand même fait une licence, même une maîtrise de maths.
En direction de la musique, dès le début ?
Il n'y avait pas du tout d'idée de musique quand je faisais les maths. Mmh. Mais bon, pour moi, il y avait une représentation sonore, souvent, des C étoiles algèbre. Alors, je n'ai pas rentré...
Non, non. Ça fait déjà peur pour quelqu'un qui n'est pas mathématicien. Donc...
Voilà. Quand je parle des C étoiles algèbre, c'est-à-dire qu'on est dans des domaines où les dimensions sont... Voilà, on dépasse la notion de dimension, on est complètement dans un autre univers. Mmh. Et c'est vrai que moi, parfois, pour me représenter ce que c'était en maths, j'entendais quelque chose, au lieu de voir ce qu'on a l'habitude plutôt de faire en mathématiques.
Vous êtes venu aujourd'hui avec plusieurs exemples de votre parcours de compositeur, avec différentes périodes aussi de votre composition. Et nous avons trois exemples de pièces qui nous montrent votre parcours vers les musiques, on pourrait dire, spectrales.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelle était votre découverte, justement, de ce spectre sonore ? Est-ce que c'est passé, justement, par les mathématiques ou c'est uniquement du sensoriel, c'est-à-dire la découverte progressive en testant les instruments, les sons ?
C'est assez bizarre, il y a un côté presque, j'allais dire, c'est un peu exagéré de dire psychanalytique, mais dans le sens où il y avait un côté très inconscient pour moi dans la découverte de la musique spectrale. C'est-à-dire que j'étais au courant de ce que c'était sans le savoir, parce que j'étais à l'IRCAM en 91, alors là cette fois en tant qu'élève ingénieur en acoustique, et j'avais rencontré Michael Levinas. Mmh. Alors Michael, je connaissais très bien sa musique déjà, avant de l'avoir rencontré. Et on a beaucoup travaillé ensemble. À ce moment-là, il travaillait sur Préfix. Alors, travailler ensemble, ça veut dire que lui, il arrivait avec plein d'idées, puis il nous les montrait, puis on en discutait. Et un jour, d'ailleurs, il m'a engueulé. Il m'a dit, mais c'est pas des questions d'ingénieur, là, que je vous posais. Et puis, il m'a pris un peu à part et on a eu une très longue discussion dans son studio. Il venait de finir les enregistrements des sonates de Beethoven. Et là, il m'a expliqué qu'il fallait que je sois compositeur, il fallait que j'arrête d'être ingénieur, entre guillemets, enfin, ou élève ingénieur. Alors, moi, je ne me pose pas trop les questions spectrales à ce moment-là. Je suis quand même au courant parce que j'ai écouté les travaux de Risset.
De Jean-Claude Risset.
Surtout dans le bouquin La leçon musicale. Mm-hmm. Ça explique beaucoup de choses.
Donc, vous êtes en plein dans des connexions en fait, entre différentes personnes, c'est-à-dire des personnes mathématiciennes, des personnes à la fois musiciennes, et vous écrivez progressivement des œuvres dans lesquelles on va découvrir justement une dimension sonore spectrale qui se fait par, en fait, presque en parallèle d'autres pièces, d'autres compositeurs comme Gérard Griset. C'est le cas par exemple de l'œuvre qui s'appelle Bocchis, qu'on va écouter tout de suite, qui est une œuvre qui a été inspirée par la même poétesse en fait que pour Griset.
Oui, alors ça c'est un truc très très bizarre qui m'a fait un peu peur, parce que complètement par un hasard très curieux, moi je cherchais des textes pour être inspiré. Et le texte donc, que j'ai utilisé pour Bocchis, c'est un texte d'Irina qu'elle a écrit pour son ami Bocchis, qui est décédé juste après s'être mariée, quand elle avait 19 ans. Et elle-même, Irina, est morte aussi très peu de temps après. Mais elle a eu le temps d'écrire un magnifique texte qui s'appelle « Dispatch » en anglais et « La quenouille » en français. Griset est mort au moment où je découvrais ce texte. Mmh. Je ne connaissais pas très bien la musique de Griset. J'ai quand même toujours chez moi les documents qui prouvent que j'étais au courant de quatre chants pour franchir le seuil.
C'est sa dernière œuvre.
Voilà.
Alors, je vous écouter justement un extrait de votre Bocchis, voilà, sur un texte d'Irina, même poétesse qui était empruntée par Gérard Griset sur les quatre chants pour franchir le seuil. Et on va voir comment est né chez vous peut-être cet attrait vers le spectral.
Thank you.
On écoute tout de suite un autre extrait de Bocchis, donc de Frédéric Maintenant. Nous sommes plutôt à la fin de l'œuvre, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Et on va voir comment a évolué justement ce matériau, qui est une sorte d'oiseau, joué ici par le xylophone.
Alors, au timbal, il y avait un chant d'oiseau qui est complètement étalé. Mmh. Donc ça, c'est les techniques utilisées par Griset, mais que j'ai découvert plus tard, en fait, je l'avoue. Et après, on entend le xylophone qui joue très rapproché le thème. Et là, maintenant, on va tendre le thème remélangé au vibraphone, et puis c'est la fin.
Frédéric, maintenant, c'était la fin de votre Bocchis, donc une œuvre qui date de 1999. Là, on a entendu des textures qui se rapprochent beaucoup des textures qu'on pouvait rencontrer dans les musiques spectrales, c'est-à-dire ce moment de passage de l'harmonie à l'inharmonique, du son plein au bruit, jusqu'à la granulation que vous avez fait manuellement, ça vous m'aviez raconté.
Il s'agit d'une bouteille qui était conique, et dans laquelle, en train de vacances, j'avais mis des petits coquillages et puis un petit peu d'eau comme ça. Et je pense une fois en la bougeant, en rangeant quelque chose
par là, hasard,
je me suis rendu compte qu'elle faisait un bruit intéressant, un son intéressant. Puis bon, pour des raisons techniques, parce que je voulais utiliser des programmes, mais bon, là, c'était pas possible. Enfin, il y avait des problèmes de timing, etc. Donc je me suis dit, tiens, en fait, je vais prendre mon vieux 4 pistes.
Ouais.
Voilà. Et avec mon 4 pistes, j'avais fait des enregistrements à différentes vitesses de mouvements que je faisais moi-même. Mmh. Et j'avais échantillonné d'ailleurs les mouvements que je faisais de manière à obtenir toute une progression, on va dire harmonique d'une certaine manière. En mélangeant tout ça, on obtient ce qu'on a pu entendre. Alors, je veux juste dire un petit mot, parce que pour moi, il y avait aussi, à la fin de Bocchis, on entend des sons qui sont dans le piano. Et je voulais représenter aussi avec le piano à queue l'idée de cercueil. Et il y a aussi cette idée finalement de ce que a très bien écrit dans un très beau texte Michael Levinas, de transmigration des âmes. On est dans une époque assez difficile, on va dire. Et voilà, j'espère que toutes les âmes des différentes personnes qui sont décédées récemment viennent vers nous. Et
pour franchir le seuil.
Pour franchir le seuil.
En parlant du seuil, justement, cette musique liminale, comme l'appelait aussi Griset, cette musique spectrale.
Tout à fait.
Là, vous êtes venu avec un autre extrait qui s'appelle Nuée d'airain, donc qui a été composé pour gamelan, donc gamelan javanais. Et là, vraiment, quand on écoute les sons d'un gamelan, on est toujours sur le seuil entre ce que dans notre système occidental, on pourrait dire la justesse, c'est-à-dire le juste. Et vous avez mélangé, pour Nuée d'airain, justement, différentes hauteurs de deux gamelans différents, si j'ai bien compris, pour arriver à un spectre sonore très particulier.
Dans le gamelan, il y a deux types d'accords, il y a le slendro et le pélogs. Et en fait, en général, ils ne se mélangent pas trop.
Non, c'est très séparé, non,
voilà,
les répertoires.
Tout à fait. Mais souvent, il y a des festivals et il y a beaucoup de gamelans qui jouent ensemble. Et j'ai imaginé que les gens devaient entendre tout ça parfois, tout mélanger, et que donc c'était impossible de le faire. L'autre chose après qui m'a tout de suite séduit, c'est que j'avais les pourcentages exacts par rapport au synth de l'accord, des notes. Et ça m'a permis de regarder en faisant du petit calcul assez simple, quelle note correspondait à quelle harmonique, etc. Alors en gros, il y a les harmoniques assez pures d'un si bémol qui démarre.
D'accord.
Et la note fondamentale, enfin la plus basse dans le gamelan, en fait, c'est une sorte de fa. Mais on a donc un la bémol qui est un vrai septième. Et tout d'un coup, si on joue, si on fait jouer ce qu'on pourrait appeler un accord de septième sur un gamelan, ça a une toute autre sonorité de ce dont on a l'habitude.
Oui, parce que les intervalles ne sont pas du tout les mêmes que dans la gamme tempérée d'un piano.
Tout à fait.
Je vous propose d'écouter un extrait donc, de Nuée des Reins de Frédéric Maintenant. Nuée des Reins de Frédéric Maintenant, un extrait donc écrit pour gamelan. Alors je précise bien qu'un gamelan, c'est un groupe de percussions, mais avec flûte et rébab, c'est-à-dire vielle, qui constitue un ensemble instrumental. Et là, on sent qu'il y a comme des jaillissements de spectres sonores, qu'on a l'impression d'entendre un son inouï, totalement inouï, avec des justesses pures. Alors on parlait la semaine dernière de Lamonté Young avec son well-tuned piano.
Ouais.
Là, c'est le well-tuned gamelan, quelque part.
Alors en fait, là, c'est une réécriture pour gamelan du début de Saturne de Hugues Dufour.
D'accord, une œuvre qui a fait date dans la musique, voilà. Sur la musique des années 80-90.
Tout à fait. Les sons sont venus assez naturellement pour moi. Ils étaient par rapport à une écoute de la pièce de Saturne, mais aussi par rapport à plein d'autres choses. Parce que la pièce, évidemment, on n'entend qu'un extrait. Elle suit toute une évolution où il y avait tout un parcours vers l'inharmonique par endroit, vers l'harmonique. Mais alors, tout ça n'était pas du tout pensé spectralement.
D'accord.
Voilà.
Et justement, là, on va arriver à une pièce qui, elle, est pensée spectralement.
Voilà, tout
c'est Errant Graminée.
Tout à fait.
Vous partez d'un spectre de trompette. On va écouter, si ça vous dit, tout l'extrait de suite pour en parler, justement,
d'accord,
de comment est-ce qu'on recrée une trompette sans trompette, finalement. Frédéric Mannan, c'était un extrait donc de votre Errant Graminée, qui a été composé en 2001 pour six flûtes et un saxophone soprano. Sauf que tout part d'une trompette, d'un spectre de trompette.
Tout à fait. Là, c'est une période de recherche, de découverte pour moi en même temps. Mm. C'est vrai que j'avais donc écrit cette pièce pour Gamelan. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'être pris pour faire une recherche sur l'intelligence artificielle et la musique, c'est-à-dire comment utiliser l'intelligence artificielle en musique. Donc ça, c'était à l'Open University au Royaume-Uni. J'avais fait mes premières expériences en utilisant un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle les cartes de Conan, cartes auto-organisatrices.
Très bien.
Et qui permettent, comme elles le disent, d'organiser en fait des données. Mmh. Bon, alors le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles représentent, d'où elles viennent. Et là, ça, c'était mon grand problème. Et moi, je voulais utiliser que des données spectrales pour faire de la réorganisation de l'orchestre, on va dire. Et là, je me suis basé vraiment sur des écrits de Griset que, à ce moment-là, j'avais lu, qui disait que pour lui, il y a moins de différence entre un piccolo et des harmoniques de contrebasse. Mmh. Que entre un piccolo et, on va dire, une clarinette.
Oui.
Alors que dans l'orchestre, on va les classer, la clarinette...
Et le vent, voilà. Et puis les autres dans les cordes.
Voilà. Exactement. Et donc, il voulait qu'on repense l'orchestre dans ce sens-là. Mmh. Donc, les expériences que je faisais avec les cartes de Conan, c'est pour voir est-ce que ces cartes de Conan vont organiser les instruments. Si on prend uniquement leur spectre, comment elles vont réagir? Alors, bon, moi, j'avais, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, non, mais j'avais dû rentrer des vecteurs qui étaient fréquence, amplitude, voilà. Mm. Et bon, ben, ça marchait moyennement, hein, ce que je voulais à ce moment-là. Par contre, miracle, les trompettes avec sourdine, vous précisez.
D'accord, oui, avec sourdine.
Voilà, ouais. Avec sourdine, elles se mettaient tout ensemble. Donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a quelque chose qui se passe là.
C'est-à-dire que le mode de calcul reconnaissait très bien le timbre et le spectre des trompettes, principalement.
On peut dire ça.
En restant dans cette histoire des cartes de Kohonen, vous avez écrit plusieurs pièces avec cette idée justement d'organisation. J'aimerais bien qu'on parle de Mémoire résonante, qui est donc une pièce qui, elle, est gérée aussi de cette manière-là, avec les cartes de Kohonen.
Alors, dans Mémoire résonante, c'était une étape supplémentaire. C'est-à-dire que là, j'avais trouvé une façon d'organiser mes données de telle manière à ce que, ben, elles se regroupent pas trop mal. Et ça corresponde assez bien à ce que Griset
disait. Timbres.
Et donc, une fois que j'avais ces cartes, donc c'est une répartition des sons d'instruments de l'orchestre sur une carte, c'est ça que ça veut dire. Mmh. Donc, à partir de là, ben, j'ai fait un espèce de parcours continu. Mmh. En passant d'une note à l'autre et en récupérant derrière les informations spectrales que j'avais en les descendant de 3 ou 4 octaves, ça dépendait un petit peu, de manière à être dans un spectre audible.
Voilà, parce que notre oreille est très limitée finalement.
Tout à fait.
Alors écoutons une musique cartographiée par les cartes de Cohonen de Frédéric Maintenant, Mémoire résonante. Frédéric, maintenant, nous écoutions un Mémoire résonante, donc pour vibraphone solo, créé en 2004. Ici, on a donc une partition cartographiée avec des hauteurs qui sont donc données. J'ai quand même une impression de quasi une improvisation avec des accords un peu jazz. Est-ce qu'on peut y voir un peu votre influence dans votre manière d'improviser, par exemple, dans les cartes de Cohonen?
Là, le vibraphone, c'est vrai qu'il est associé beaucoup au jazz.
Oui, évidemment.
On ne peut pas dire le contraire. Mais si je me souviens bien, c'est Pierre Lacroix là, qui joue. Mmh. Et il avait été d'ailleurs très surpris au départ parce qu'il y a beaucoup de résonance, bon, le titre le dit. En fait, ce qu'il entendait quand il jouait, ça ne correspondait pas forcément avec ce qu'il lisait. Il entendait des harmonies qui se mêlaient, etc. Il me disait que c'était... assez compliqué à gérer à ce niveau-là.
Ça fait ressortir en fait des mélodies qui ne sont quasiment pas écrites. C'est-à-dire qu'on a des choses qui se créent par les résonances de l'instrument lui-même.
Tout à fait. Alors effectivement, par rapport à l'improvisation, ce qui est intéressant, c'est que je m'étais dit, ben, je vais essayer de jouer ces spectres au piano, même si ce n'est pas les bonnes hauteurs. Bon, alors là, je ne vais pas rentrer non plus dans les trucs mathématiques, mais quelque part, les ondes, c'est des cosinus, c'est quand on fait la somme, cosinus, oméga, θ, φ.
Ça reste du calcul.
Voilà, il y a du calcul. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport entre hauteur et amplitude peut jouer. Donc, je m'étais rendu compte au piano, ça a changé beaucoup ma façon de jouer d'ailleurs le piano, qu'en jouant donc avec mes doigts, différentes dynamiques, ben, j'obtenais des effets qui étaient quand même très intéressants et très proches de ce que j'entendais. Voilà.
En musique écrite.
En musique écrite, ouais.
Alors, je vous propose qu'on va terminer notre interview avec une reprise, finalement, du matériau que vous avez développé dans Mémoire résonante, mais là, orchestrée pour 19 flûtes.
Tout à fait.
Dans Il se rendit compte d'une anomalie et sans attendre, sauta hors de son véhicule. Et là, on va entendre des groupes de flûtes se superposer les uns aux autres, une sorte de matière et une texture particulière, tout en hétérophonie. Alors, je dis bien le mot parce qu'on en reparlera dans deux semaines, lors de notre nouveau mois sur l'improvisation. Comment est-ce que vous êtes parti de Mémoire résonante pour arriver à ces 19 flûtes, à ce dispositif de 19 flûtes?
Alors c'est un va-et-vient. Donc il y avait une pièce qui avait été écrite pour orchestre, qui a été réduite pour vibraphone et qui a été réexpandue pour 19 flûtes. Voilà, c'est un petit peu le va-et-vient qu'il y a eu. Mais c'est vrai que les sources, les notes sont les mêmes. L'organisation des notes est à peu près les mêmes. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que j'étais obligé de répartir les 19 flûtes en deux groupes. Il y a un groupe qui est à 432.
Donc, accordé au diapason,
voilà,
432.
Tout à fait. Et un groupe qui est à 440.
C'est-à-dire au diapason traditionnel que tout le monde utilise aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a vraiment un jeu sur la hauteur pour essayer de retrouver un peu un spectre enrichi. Un extrait de « Et il se rendit compte d'une anomalie et sans attendre sauta hors de son véhicule » de Frédéric Maintenant, interprété ici par l'Orchestre français de flûte de Pierre-Yves Arthaud.
Voilà. Tout à fait.
Merci beaucoup Frédéric Maintenant d'avoir accepté l'invitation pour nous parler de ces musiques mathématiques, spectrales, spatiales que vous développez maintenant depuis plusieurs années. On peut vous suivre sur penserlamusique.canalblog.com ou encore sur votre SoundCloud pour écouter un peu plus en détail toutes ces musiques. Merci et à bientôt.
Merci.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
France Musique.
Si je compose, si je travaille, et j'ai beaucoup d'influences, je ne réfléchis jamais sur ça que je fais. Je fais les choses. C'est la même chose que... on ne parle pas de l'amour, on fait l'amour. Alors, je fais la musique. J'ai aucune dogme, aucune théorie, aucune. Je le fais. Et je suis ouvert. J'ai tant des intérêts musicaux, extra-musicaux, scientifiques, mathématiques, peinture, politique, histoire. Je suis comme une éponge. Je veux tout connaître et inconsciemment. Sans que je me rende compte, ça entre dans ma musique.
Zoom sur le concerto pour piano de Gheorghi Ligeti. Gheorghi Ligeti composait sans dogme, sans frontières, mais avait toujours l'obsession d'écrire une musique de son temps. Avec son concerto pour piano, composé entre 1985 et 1988, Ligeti réunit toutes les découvertes qu'il a pu effectuer au début des années 80, tout en prolongeant les textures qu'il développe depuis les années 60. Lorsque l'œuvre est bien jouée, nous dit Gheorghi Ligeti, à la vitesse requise et avec l'accentuation correcte dans chaque strate de tempo, elle finit au bout d'un certain temps par décoller, comme un avion. La complexité rythmique empêche de distinguer chaque structure élémentaire et crée un univers sonore qui paraît planer. Cette dissolution de plusieurs structures élémentaires dans une structure globale, de nature complètement différente, est un des postulats fondamentaux de mes compositions. Depuis la fin des années 50, c'est-à-dire depuis les pièces pour orchestre Apparition et Atmosphère, j'explore cette idée de base en tentant de l'exploiter chaque fois de manière renouvelée. Dans le premier mouvement du concerto, Ligeti superpose des événements multiples qui ont tous l'air d'émerger des lignes brisées du piano. Des mécanismes se mettent alors en place que l'on tente de percer, de suivre à la trace. Mais tout est furtif, dans un chaos totalement limpide. La complexité de Ligeti coule de source. On trouve dans la musique de Ligeti des textures sonores que l'on pourrait comparer à la formation des lichens, ce végétal dont l'une des caractéristiques est de ne pas avoir de forme par lui-même. Mais il se coule à l'intérieur d'un contour qui délimite son étendue. Il n'a pas de fleurs, pas de tiges, pas de tronc, pas de racines. Sa structure en filaments indifférenciés pourrait nous donner une image visuelle de ces textures sonores en nuages de motifs diffus de Ligeti. Depuis au moins Atmosphère en 1961, ou encore ces progressions polyrythmiques perpétuelles du troisième mouvement du concerto pour piano.
les polyphonies et polyrythmiques de l'Afrique centrale du peuple Bandalinda, Simharom. J'ai entendu une casette. Et j'entends ça, c'était une des plus grandes sources d'inspiration. Et je dis, je ne fais pas ça, mais c'est mon entrée maintenant. La complexité rythmique africaine, et là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que toutes les cultures européennes. Le domaine de la mathématique, c'était aussi une révélation que aussi j'ai commencé de le connaître en 83, c'est la géométrie fractale et la théorie du chaos, les fonctions non linéaires. Et comme j'étais toujours très profondément intéressé dans la mathématique, je ne utilise pas les calculs, mais je suis beaucoup dans le monde de l'informatique et de la mathématique. C'était aussi une révélation. Ça veut dire les formes complexes qui sont les fractales, l'ensemble Mandelbrot, les ensembles Julia. C'était tout un croisement mathématique, géométrie, musique africaine, musique de Sud-Est Asie, nord du Pacifique, archipelag Bismarck, Nouvelle-Guinée, et tout ça. Ça, tout a commencé vers 82, 83. Ça a changé tout mon horizon.
Depuis que l'on a donné le mot fractal à des systèmes et des modèles mathématiques qui ont toujours existé, les musiciens comme les plasticiens n'ont eu de cesse de tendre à générer un art fractal. Fractus veut dire briser. Une fractale est un objet géométrique infiniment morcelé. En zoomant sur une partie de cet objet, on peut retrouver toujours cet objet, comme s'il se répétait à l'infini. Et des fractales, il y en a dans la nature. Le chou-fleur, la fougère ou le flocon de neige présentent des modèles fractales. Ligeti, même s'il ne calcule pas sa musique à partir d'un modèle physique ou mathématique précis, écrit une musique qui flirte avec les fractales. Par ces superpositions de motifs à la fois similaires et différents, tous avec le même contour mais joués à différents tempos, ajoutant une note par-ci, par-là, pour donner une épaisseur à cette structure qui pourrait se reproduire à l'infini. Comme ces enveloppes descendantes proliférantes de la fin du deuxième mouvement du concerto pour piano.
Thank you.
Et bien souvent, l'auditeur est pris d'illusions auditives. De la musique écrite ressort des motifs, des sons, des textures que chacun perçoit comme il le veut. Écouter la musique de Ligeti des années 80, c'est constamment zoomer et dézoomer dans son écoute. Dans une musique mécanique, maîtrisée et déterministe, chacun tente de percevoir son parcours, son devenir, entre fractal et lichen, entre l'infiniment petit et l'infiniment diffus. Dissolution du cri du patchwork consacré aux sciences dans la création musicale. Cette émission a été réalisée par Perrine Mingui, avec aujourd'hui à la technique Éric Boisset. Un grand merci à Flora Sternadel pour les fouilles quasi archéologiques dans les méandres du son. On se retrouve dans 2 semaines pour cause de folle journée de Nantes la semaine prochaine, pour un nouveau mois, un nouveau thème. 4 émissions pendant tout le mois de février qui nous questionneront sur les communications entre improvisation et écriture dans la création contemporaine. Avec en ouverture le compositeur Karl Negelen et le clarinettiste Joris Rühl, que nous inviterons à deviser sur leur travail commun, sur les frontières entre écrit et oral, improvisé et composé, aléatoire et déterminé. N'hésitez pas à vous jeter sur votre ordinateur ou votre téléphone portable pour podcaster l'émission, et pour réécouter les 4 émissions de notre mois de janvier sur ces sciences dures aux origines de la pensée de quantité de musiciens.
Si je fais... 1, Togaram, 1, parap, 2, ça suffit, un, il sait ce qu'il a à faire, 1, parap, 2, 3, c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble, hein? Bonjour, au revoir, voilà.
France Musique, il est 17h, l'heure de passer la main à Arnaud Merlin et son All That Jazz. C'est à vous Arnaud.